France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cette semaine, et à l'occasion du bicentenaire de sa mort, c'est l'œuvre de Saint-Simon que nous explorons avec philosophie. Et aujourd'hui, une question, celle de l'utopie. Avec son projet de réforme sociale, politique et industrielle, avec sa philosophie d'une société juste et bonne, Saint-Simon n'était-il rien d'autre qu'un utopiste, un doux rêveur, comme l'ont dit ses détracteurs, ou bien plutôt un visionnaire, comme ont voulu l'incarner ses disciples, les Saint-Simoniens tentant de faire de l'utopie une réalité. Come all over you. Do you think that the earth is as barren as the moon? Or do you make a smiling face, accept your life with grace, then move on? Now you know that the earth is round, what goes up must come down. And the way of right is love and thoughtfulness. Everything's gonna be alright, and this utopian feeling is the only thing that can strengthen right. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour.
Vous êtes doctorante, vous rédigez actuellement une thèse à l'université Jean Moulin, Lyon 3, intitulée « Le Saint-Simonisme en Europe au XIXe siècle, circulation et réception d'une doctrine politique et juridique formatrice ». Vous nous en direz sûrement plus, c'est typique d'un titre de thèse, on se demande ce que ça cache. Et bonjour à vous Philippe Régnier.
Bonjour.
Vous êtes directeur honoraire de recherche au CNRS, historien littéraire, spécialiste du 19e siècle. Vous avez travaillé sur les écrits des Saint-Simoniens. Et bonjour à vous, Pierre Musso.
Bonjour.
Vous étiez présent ici à ce micro en début de semaine. Vous êtes toujours philosophe, professeur honoraire à l'université Rennes 2. De vous paraîtra dans les prochains jours une biographie de Saint-Simon. Saint-Simon, philosophe de la société industrielle, ce sera aux éditions Fayard. Et je précise aussi que tous les deux, Philippe Régnier et Pierre Musso, vous avez établi l'édition critique des œuvres complètes de Saint-Simon aux éditions PUF. Première question à tous les trois, une question pied dans le plat. Saint-Simon n'a jamais parlé d'utopie, alors pourquoi il en est question aujourd'hui? Pourquoi on accole l'étiquette d'utopie à Saint-Simon? Pierre Musso.
Utopie, il en parle, Saint-Simon.
Mais pas pour se qualifier lui-même.
Non, pour se distinguer de l'utopie, justement. Je peux vous donner une citation d'entrée. Qui dit utopie, c'est Saint-Simon qui parle, hein. Qui dit utopie dit incertitude de la possibilité ou impossibilité sentie d'une manière vague de l'exécution d'un nouveau système d'organisation sociale. Et ce vague ou cette incertitude, à quoi tiennent-ils si ce n'est au peu d'habitude que nous avons de considérer la grande série des faits historiques relatifs à la marche de la civilisation? Là, tout est dit, c'est-à-dire comme il pose le principe de l'historicité. Tout est historique et toute sa vision, conformément à l'époque et à Schiller qui dit l'histoire du monde est le tribunal du monde. Eh bien, Saint-Simon fixe, à la suite de Condorcet aussi, la marche de la civilisation. Donc, mais qui ne concerne, j'insiste, que le progrès des connaissances. Et pas la morale, par exemple, pas la politique, pas la religion. Donc c'est une historicité linéaire, certes, qui est une marche de la civilisation, presque une loi naturelle. Et du coup, se projeter vers le futur, ce n'est pas faire une utopie, avoir un projet pour le futur, c'est tout simplement accomplir les pas successifs de cette marche de la civilisation. Donc par l'historicité, il élimine le principe même de l'utopie dans plusieurs textes. Il rejette l'utopie comme négative et comme souvent à l'époque, le sens du mot utopie était péjoratif, comme souvent encore.
Oui, même aujourd'hui encore, d'ailleurs, on peut le dire.
Encore aujourd'hui. Donc il faut redéfinir ce terme ambigu d'utopie.
Bah oui. Justement, on va en dire plus, on va redéfinir ce terme d'utopie, Philippe Régnier.
Oui, une petite addition à ce que vient de dire Pierre et qui est vraiment centrale. Autre citation de Saint-Simon concernant l'utopie, Il proteste contre la propension de ses contemporains à nommer utopie toute réforme amenant un changement social important. Et précisément, au niveau de la réception, c'est son cas à lui. Il ne parle pas de petits changements sociaux, il parle d'un grand changement social. Et c'est ça qui le situe, pour ceux qui le regardent, du côté de l'utopie.
Donc voilà, donc il rejette l'utopie, néanmoins, il peut être taxé d'utopiste, et c'est là toute l'ambiguïté. Vous n'êtes pas d'accord, Pierre Musso ?
Si, je suis d'accord. Ah. Avec ce que vient de dire Philippe, la grande problématique de Saint-Simon, la seule et unique problématique dans toute son œuvre, c'est l'achèvement de la Révolution française. Et justement, il faut inventer. Et là, on est au cœur de l'utopie, c'est-à-dire que dans le présent, il ouvre un champ des possibles. Donc, si on revient sur la définition de l'utopie, on est proche de la définition que donne Ernst Bloch dans le principe Espérance, c'est-à-dire le présent bourdonne de possibles. C'est pas l'utopie contre le réel, ça c'est l'imagerie, je dirais, ordinaire et qui aboutit souvent à la vision négative de l'utopie, c'est-à-dire d'opposer fiction, utopie, imaginaire à réel. Et c'est même un accompagnement. L'utopie accompagne le présent, parce que si on revient à l'étymologie de l'utopie, c'est un terme ambigu. Mais dès le départ, il est ambigu puisque c'est à la fois un lieu de nulle part et en même temps...
Le meilleur des lieux.
Le meilleur des lieux, un pays de bonheur. Donc c'est à la fois un pays et un gouvernement imaginaire. Mais il faut bien voir, il y a un excellent bouquin de Raymond Ruyère sur l'utopie qui s'appelle « L'utopie et les utopies ». Et il faut bien voir que c'est l'utopie... C'est l'ouverture d'autres mondes possibles. Et Saint-Simon ouvre dans toute son œuvre, suite à la Révolution, il ouvre tous les possibles, et il se sert même de l'utopie ou de la semi-utopie, pour reprendre un terme de Ruyère, pour inventer des concepts.
Donc on est quand même au cœur, en fait, du sujet de la réforme sociale grâce à Saint-Simon. C'est-à-dire que dès qu'on désire un changement de société profond, global, social, économique, politique, morale, on peut être d'emblée situé du côté de l'utopie, sauf que l'utopie est toujours stigmatisée. Alors comment résoudre ce paradoxe ? Marie Janin, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous travaillez plutôt sur les Saint-Simoniens ? Je le précise, est-ce que ce terme d'utopie que rejetait Saint-Simon, il apparaît plutôt chez les Saint-Simoniens, c'est-à-dire chez ses disciples, et donc réinvesti d'une manière beaucoup plus positive comme « mais désirons ce changement, désirons ce nouveau monde ».
En effet, les Saint-Simoniens, eux, vont se réapproprier ce terme d'utopie et vont justement parfaire toutes les propositions déjà établies par Saint-Simon.
Alors on verra, hein, parfaire ou trahir, on verra, peut-être que c'est pas forcément
tout à fait
la même chose.
En tout cas, on voit surtout apparaître la critique utopiste des Saint-Simoniens et même de Saint-Simon lui-même à partir de 1848. Avec la publication du manifeste du Parti communiste de Marx. Et ce qui va ensuite cristalliser cette distinction entre ce qu'on va appeler plus tard le socialisme utopique et le socialisme scientifique, on le doit à cette date vraiment charnière et la publication de ce manifeste dans lequel Marx va scinder le socialisme en deux. Lui va se placer du côté scientifique et va placer Saint-Simon et les Saint-Simoniens dans la partie utopiste. Et à partir de là, eh bien, la scission est faite et pendant très longtemps, les Saint-Simoniens vont rester accolés à cette image d'utopiste. Moi, je pense, et j'essaie de l'expliquer dans ma thèse à travers mes recherches, que le droit, la réforme juridique du Saint-Simonisme, qui est très souvent oubliée, permet, elle... de prouver que le Saint-Simonisme n'est pas qu'une utopie et que ces réformes sont réelles, ont parfois même fonctionné, très bien fonctionné, même quand c'est pas en France, c'est à l'étranger, et donc permet aussi de redorer leur image. Parce que Pierre Musso le disait tout à l'heure, l'utopie, encore aujourd'hui, il y a une étiquette très péjorative.
Voilà, c'est la question aussi que j'allais vous poser. Est-ce que finalement, aussi, on peut pas, grâce à Saint-Simon, réhabiliter ce terme d'utopie, non pas en revenant sur cette étymologie à la fois de lieu le meilleur, mais de lieu impossible, en se disant, est-ce qu'on peut pas avoir un désir d'une société nouvelle, d'une société socialiste, telle que la définit Saint-Simon, sans tout de suite être dans l'ordre de la fiction ou du rêve, Philippe Régnier ?
Je pense que pour bien saisir cette orientation-là de lecture, il faut se reporter aux travaux philosophiques qui nous y ont mis dans les années 1970. C'est Miguel Abansur qui a, à partir des lettres au docteur de Ville de Pierre Leroux, a attiré l'attention sur la fécondité possible de ce concept d'utopie. Par la suite, il y a eu les travaux de Michel Rios-Arce, avec laquelle j'ai souvent travaillé, et d'Antoine Picon également, qui ont publié un dictionnaire critique des utopies et qui ont cultivé cette orientation. C'est cette veine philosophique et historique qui a changé les choses, sans compter à l'étranger, dans le monde anglo-saxon, les Utopian Studies.
Alors, qu'est-ce que ça a changé ?
Ça a changé le regard.
Sur l'utopie ?
Non, sur les textes. Peut-être sur l'utopie aussi. C'est parti tout de même d'un vif ressentiment contre l'ordre existant, à l'évidence. Et aussi de la conscience aiguë que c'est l'ordre existant qui est irrationnel. C'est lui qui est irrationnel. C'est pas Saint-Simon qui était fou. C'était ses contemporains. C'est pas les Saint-Simoniens qui étaient des déviants et des irréalistes. C'était les contemporains. Et ils ont eu raison. C'est ça le pire. C'est qu'ils ont eu raison. À la fois Saint-Simon dans sa prévision, j'allais dire, de la société industrielle. Il avait compris quelque chose d'essentiel, à l'évidence, société de l'industrie, et à la fois les Saint-Simoniens, à sa suite, qui ont fini par, pour certains, être les constructeurs du réseau ferroviaire français, ont beaucoup collaboré à la création de notre système de banque de crédit ou à la création de grandes entreprises.
Voilà, c'est bien que vous le souligniez parce qu'effectivement, déjà le nom de Saint-Simon est peut être connu, mais pas si connu que ça, et on méconnaît surtout l'héritage de ce qui a été taxé d'utopie, mais qui même d'ailleurs vous l'avez dit du côté de la déviance, pas que du côté de la fiction ou du rêve, mais a véritablement infusé dans notre société et même dans une construction sociale juridique. On y reviendra peut-être, Marie-Jeannin. À vous.
Et ce qui est énervant, c'est que, à propos du saint-simonisme, ce qui est ces temps-ci souvent mis en avant, c'est les frères Pereire et la formidable réussite de leur crédit immobilier, de la transformation de Paris, etc. C'était, en effet, des réalisations exceptionnelles, et le canal de Suez, par les Lesseps, qui, entre parenthèses, n'était pas formellement saint-simonien. Mais ce qu'on n'ajoute pas, c'est que au départ, ces projets-là faisaient partie de l'utopie saint-simonienne, que ces gens-là, qui sont devenus des ultra-capitalistes de leur époque, avaient conservé un certain nombre de concepts et d'idéaux qui étaient ceux de leur jeunesse et qu'ils étaient en même temps liés à des mouvements sociaux qui demeuraient très subversifs à l'égard de l'ordre existant. Je pense en particulier au mouvement ouvrier. Il y a des ouvriers saint-simoniens pendant très longtemps, y compris sous le Second Empire. Et il y a des femmes féministes qui s'inspirent aux idées saint-simoniennes.
Oui, on en a parlé hier.
Vous en avez parlé hier. Et ça fait aussi partie du paquet saint-simonien, si j'ose dire.
Oui, mais alors vous le dites très bien, voilà, c'est un paquet. Et juste une petite incise pour vous, Philippe Régnier, comment on peut être encore saint-simonien et capitaliste ? Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction ? C'est-à-dire que là, l'utopie, qu'en reste-t-il à part des beaux idéaux ?
c'est assez simple à comprendre quand on se reporte aux origines du socialisme.
Okay.
Les premiers à parler de socialisation des instruments de production, c'est les mots, hein. Mmh. C'est Isaac Perret, dans une note qui n'a pas été publiée, qui doit dater de 1829. Vous voyez, c'est les concepts du socialisme, sauf que c'est des concepts qui viennent du milieu de la banque, mais qui seront ensuite réappropriés par le mouvement ouvrier, par Marx, bien entendu. Mmh. Hein? De même que ce mot de socialisme, il commence à être employé dans le journal Le Globe, à propos d'un article sur Victor Hugo. Donc on a un fond conceptuel commun à cette évolution vers un capitalisme de crédit, un capitalisme financier, celui des Perret, et le socialisme du mouvement ouvrier qui sera réapproprié par l'international et par ce qu'on a appelé par la suite le socialisme français.
Pierre Musso, vous vouliez intervenir ?
Oui, je veux revenir sur cette étiquette d'utopiste et de socialiste utopiste collée à Saint-Simon, et qui n'est pas collée qu'à Saint-Simon. Mmh. Il est collé à une trilogie, en général, qui est Saint-Simon, Fourier, Owen, ou Saint-Simon, Owen, Proudhon. Bon. Et Proudhon rejetait aussi catégoriquement ce qualificatif. Il vient essentiellement de Marx et Engels.
Vous voulez d'ailleurs qu'on écoute le texte d'Engels, peut-être ?
Oui. Juste pour vous dire, juste avant qu'on l'écoute, que pour ma part, c'est devenu un obstacle épistémologique à la lecture de Saint-Simon.
La situation historique domina aussi les fondateurs du socialisme. Il s'agissait d'inventer un nouveau système plus parfait de régime social et de l'octroyer de l'extérieur à la société par la propagande et, si possible, par l'exemple d'expériences modèles. Ces nouveaux systèmes sociaux étaient d'avance condamnés à l'utopie. Plus ils étaient élaborés dans le détail, plus ils devaient se perdre dans la fantaisie pure. Cela, une fois établi, ne nous arrêtons pas un instant de plus à cet aspect qui appartient maintenant tout entier au passé. Que des regrattiers livresques épluchent solennellement des fantaisies qui ne sont plus aujourd'hui que divertissantes, laissons-les faire valoir la supériorité de leur esprit posé en face de telles folies. Nous préférons nous réjouir des germes d'idées de génie et des idées de génie qui percent partout sous l'enveloppe fantastique et auxquelles ces philistins sont aveugles. Saint-Simon était fils de la Révolution française. Il n'avait pas encore 30 ans lorsqu'elle éclata. Dès lors, qui devait diriger et dominer ? D'après Saint-Simon, la science et l'industrie, qu'unirait entre elles un nouveau lien religieux destiné à restaurer l'unité des conceptions religieuses rompues depuis la Réforme. Un nouveau christianisme, nécessairement mystique et strictement hiérarchisé. Mais il est un point sur lequel Saint-Simon insiste tout particulièrement. Partout et toujours, ce qui lui importe en premier lieu, c'est le sort de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Or, concevoir la Révolution française comme une lutte de classe entre la noblesse, la bourgeoisie et les non-possédants était en 1802 une découverte des plus géniales.
Extrait de Socialisme utopique et socialisme scientifique de 1880 de Friedrich Engels. Vous vouliez introduire ce texte, Pierre Musso, mais vous l'avez aussi annoncé, Marie Janin, puisque vous avez dit que finalement l'étiquette utopique, elle arrive à cause de Marx et Engels. Alors, Pierre Musso, d'abord, qu'est-ce qui joue dans ce texte ? On voit bien d'un côté... Alors moi, je m'attendais vraiment à une critique... Très radical de Saint-Simon. Or là, à la fin du texte, c'est quand même un éloge. C'est-à-dire qu'on doit à Saint-Simon, nous dit Engels, quand même la lutte des classes, finalement, d'avoir perçu ça.
Oui, non seulement on lui doit l'idée, mais la formule. Saint-Simon invente la formule de lutte des classes. Il y a deux sources à ce qualificatif d'utopique. Et je vais revenir à Marx et Engels. Il y a donc ce texte de Marx et Engels, à la fois dans le manifeste et dans l'anti-During, dont l'extrait que vous avez passé. et d'autre part à l'image ou à l'imagerie de la retraite de Ménilmontant, sur laquelle on reviendra, qui là concerne les Saint-Simoniens. Si on reste sur Marx et Engels, Marx et Engels ont lu de très près Saint-Simon, y compris des manuscrits qui n'étaient pas publiés, qu'ils avaient eus notamment par des Saint-Simoniens en Belgique. Eh bien, la critique de Marx et Engels ne porte pas simplement sur le fait qu'il est qualifié de socialiste utopique, il avait déjà été qualifié de socialiste déjà par Pierre Leroux, par Louis Rebaud.
Bah ça, en soi, c'est pas... Oui, mais c'est pas une injure.
Non, c'est pas une injure. Ça peut se discuter. Ah. Je pense qu'il est pré- ou proto-socialiste. Pour ma part, je le qualifie dans mes textes plutôt d'industrialiste social ou socialisateur. Et pas vraiment de socialiste. Il n'a pas le mot socialisme.
Et donc, ni socialiste, ni utopique. Donc, Engels et Marx, là...
Le qualificatif ne vaut pas grand-chose. C'est pour ça que je parle d'obstacles épistémologiques, d'autant que c'est rentré dans les manuels scolaires, pratiquement. En revanche, Marx et Engels reconnaissent, comme dans ce texte, la grande qualité de Saint-Simon, et compare même, Engels compare Saint-Simon à Hegel. C'est pas rien. Hegel fut, je cite Engels, avec Saint-Simon, la tête la plus encyclopédique de son temps, et nous trouvons, ajoute-t-il, chez Saint-Simon, une largeur de vue géniale. Alors cette idée d'utopie a été ensuite, alors que pour eux, pour Marx et Engels, c'était pour eux ce qu'ils appellent un communisme critico-utopique. La vraie formule de Marx et Engels, c'est chez Saint-Simon, on trouve un communisme critico-utopique.
Qu'est-ce que ça veut dire critico-utopique ?
Ben, ça veut dire qu'il le distingue du socialisme réactionnaire petit bourgeois et bourgeois, explicitement dans les textes. Et donc ce qualificatif est revenu souvent ensuite, beaucoup plus tard, notamment chez Henri Desroches, qui est un commentateur brillant, pertinent de Saint-Simon et de l'utopie, mais même chez, par exemple, Gourovitch, Georges Gourovitch, qui a fait ses cours à la Sorbonne sur Saint-Simon, il dit aussi que c'est le plus réaliste des utopistes et le plus utopiste des sociologues à propos de Saint-Simon. Donc ce qualificatif traverse l'histoire, mais c'est vrai que l'image, l'étiquette, or Saint-Simon, tout le problème pour notre appréhension de Saint-Simon, c'est qu'on ne le lit qu'à travers des commentaires et des images.
Qu'à travers des filtres, et notamment celui d'utopiste.
Et on ne va pas chercher les textes, c'est pour ça qu'on s'est employé avec Philippe Régnier, avec Juliette Grange et Franck Yonnet.
Sur ses œuvres complètes.
Les œuvres complètes, la correspondance, les biographies, etc. Pour revenir aux sources, aux textes et aux contextes.
Marie Janin, c'est vous qui aviez évoqué la première dans cet échange, cette distinction qui est proposée entre socialisme utopique et scientifique. Est-ce que c'est pour vous aussi, dans vos travaux, dans vos recherches, un obstacle épistémologique, en fait, de vouloir à tout prix dépouiller Saint-Simon et les Saint-Simoniens de cette étiquette utopiste ? Est-ce qu'elle est quand même légitime d'un certain point de vue, d'une certaine définition de l'utopie, ou au contraire, en fait, est-ce que c'est juste une stratégie de disqualification, malgré cet éloge d'ailleurs ?
Oui, tout à fait. Ça pose d'immenses difficultés. Sans revenir aux sources, il est absolument impossible de comprendre ni Saint-Simon ni ses disciples, d'ailleurs, qui ont tous eu une interprétation de la parole de leur maître, comme il l'appelle. Donc oui, bien sûr, ça pose d'énormes difficultés. Mais Pierre Musso a raison, il faut aussi reconnaître l'honnêteté intellectuelle et de Marx et de Engels. Bien sûr qu'ils ont, par ce qualificatif-là, d'une certaine manière, discréditer la pensée de Saint-Simon, mais ils ne le font pas dans cet objectif-là.
Oui, c'est ça, c'est quand même dans le texte qu'on a entendu, qui est quand même assez drôle, quand il parle de regrattier l'ivresque, moi je ne savais pas ce que c'était, donc c'est quand on vend des objets au détail sur une foire, je le précise, des fantaisies divertissantes, il dit quand même, voilà, en creux, il faut passer outre tout ça pour quand même déloger des idées de génie.
Bien sûr, mais Marx le reconnaît lui-même dans ses textes, il a emprunté beaucoup d'idées à Saint-Simon, qu'il admire profondément. Il admire les réformes qu'il propose. Il admire aussi la nouvelle vue qu'il a sur les ouvriers, sur les travailleurs les plus pauvres. Il est simplement en désaccord avec les moyens
d'arriver. Alors voilà, quelle est la différence ? Là, on peut peut-être revenir à cette différence entre ce qui a été dit du socialisme utopique, même si le terme est mal choisi, même si c'est quelque chose de stratégique, et le socialisme scientifique. Qu'est-ce qui différencie Saint-Simon de Marx ?
La grande différence, c'est que Saint-Simon et ensuite ses disciples, tous sont des réformateurs. et surtout de grands pacifistes. Vraiment, ils défendent...
La différence réformateur-révolutionnaire.
Et révolutionnaire, tout à fait. Marx, lui, propose une révolution à laquelle il croit profondément. Hein. Son but n'est pas d'exciter les foules, hein. Il croit profondément au bienfait de la révolution. Lui, Saint-Simon, n'y croit pas. Les Saint-Simoniens, non plus. Ils défendent la réforme juridique, la réforme sociale, la réforme politique, voire même religieuse. Hein. Mais ils rejettent tout à fait l'excitation des foules.
Est-ce que ça peut s'expliquer par ce que dit au début du texte qu'on a entendu Engels, à savoir quand il parle de situation historique, il parle en fait de la Révolution française. Qu'est-ce qui les a traumatisés?
Son inachèvement, en grande partie.
Pas sa violence, forcément.
Alors, sa violence, pour les disciples saint-simoniens, c'est un peu...
C'est souvent ça, en fait, quand on est pro-réforme, on se dit ça évite quand même le sang de la révolution, et inversement, les révolutionnaires vont dire bah, les réformateurs, ils sont gentils, mais bon, ils sont un peu mous.
Bien sûr, c'est la grande opposition de 92. Pour les saint-simoniens eux-mêmes, c'est difficile de commenter en profondeur ces événements, parce que la plupart, en fait, ne les ont pas vécus. Il ne faut pas oublier que les saint-simoniens sont très jeunes, hein, dans les années 1825, ce sont pour la plupart, sauf quelques exceptions, hein, Prosper Enfantin est né au XVIIIe siècle, mais la plupart sont jeunes et sont nés au tout début de l'Empire. Donc ils ne commentent pas à proprement parler les événements. En tout cas, avec la postérité qu'ils lui connaissent, ils vont bien sûr en critiquer la violence, c'est certain, mais ils vont surtout en critiquer l'inachèvement social. L'inachèvement juridique, l'inachèvement politique, pour eux, la Révolution française a quand même, sur de nombreux aspects, servi les intérêts bourgeois et a laissé de côté, en réalité, les travailleurs. Ils vont jusqu'à dire que les ouvriers du XIXe siècle ne sont rien de plus ni moins que les héritiers des serfs de l'Ancien Régime. Donc ils vont être très critiques à l'égard de la Révolution.
Philippe Régnier.
Pour comprendre ces textes-là et qui font partie de notre culture, de notre patrimoine intellectuel, il faut se défaire à la fois d'un concept péjoratif et caricatural d'utopie et d'une réaction anti-scientifique. En réalité, ces textes-là ont une démarche scientifique. Saint-Simon a une démarche scientifique. Les Saint-Simoniens sont des polytechniciens, des médecins, des gens de science. On ne comprend pas Saint-Simon si on ne prend pas sérieusement en compte les efforts qu'il a fait pour assimiler la science de son temps. Il y a consacré beaucoup de temps. Il a écrit des textes qui sont difficiles à lire aujourd'hui parce que il n'était pas rentré dans les formalismes de ces sciences, mais il avait compris des choses et il les avait transcrites et transférées et appliquées à la société. Et là, c'est sa grande découverte, me semble-t-il, ce qu'il appelle sa philosophie positive. C'est-à-dire que il a essayé d'appliquer à l'observation de la société la démarche qui est celle des scientifiques en général, particulièrement de ceux qu'on appelait à l'époque les physiologistes. Et puis, les Saint-Simoniens, ce que je disais tout à l'heure à propos d'Isaac Perret, ils partent des connaissances économiques de leur temps et de la science économique de leur temps, de l'économie politique de leur temps. C'est pas par hasard si le transmetteur de Saint-Simon auprès des Saint-Simoniens est Olinde Rodrigue, qui se trouve être un grand mathématicien de son époque, reconverti dans la finance parce que ses origines juives ne lui permettaient pas de mener une carrière d'enseignement sous la Restauration. Et Olinde Rodrigue a fait venir avec lui Prosper Enfantin, qui est un ancien élève de Polytechnique. Michel Chevalier est un ancien de Polytechnique. Ce sont des gens de science.
Si je vous suis bien, Philippe Régnier, ça veut dire que non seulement il faut revoir le sens peut-être d'utopie, non seulement pas la disqualifier, mais la réhabiliter, mais aussi peut-être le sens du mot réforme. Parce que c'est ça aussi qui pose problème avec Saint-Simon, c'est qu'on peut ne pas mesurer l'ampleur de son projet, justement parce qu'il n'a pas l'étiquette de révolutionnaire, mais celui simplement de réforme. Et on a l'impression, effectivement, que c'est quelque chose, bon, bah, il faudrait appliquer les maths, je le dis très grossièrement, hein, Philippe Régnier, oui, oui. mais à la société, la réorganiser, et on a l'impression que c'est presque insuffisant.
Qui dit révolution ne dit pas forcément violence. Le terme de science lui-même est à se réapproprier. Il y a des sciences humaines et sociales, ce qui, à cette époque, n'était pas évident du tout.
Alors, concernant... Mais là, c'est le modèle scientifique. Quand on dit science, c'est les maths, c'est des lois qui sont rigoureuses, nécessaires. Or, on voit bien, justement, qu'en politique, ça peut échapper cette rigueur-là.
Absolument. L'intérêt de ces textes-là, c'est que qui réfléchissent sur l'époque où la France est devenue démocratique, en gros. Cette époque de la Restauration, cette époque de la Monarchie de Juillet, c'est qu'on voit comment on se construisent les démarches, les postures, les concepts qui vont être ceux des sciences de l'homme et de la société avant qu'elles ne s'universitarisent. Si j'ose dire. Hein ? Il y a d'ailleurs très peu encore... Enfin, il y a de la philosophie à l'université, mais elle gagne chèrement sa place à l'époque. Et je ne vous parle pas de la sociologie, de l'histoire, elle est fabriquée d'une certaine manière. Les sciences économiques, n'en parlons pas trop. Mais Saint-Simon commence à ingérer tout ça et à le proposer... à ses jeunes disciples qui continuent dans cette direction.
Pierre Musso.
Pour répondre à votre question réformateur, il se déclare réformateur et jamais révolutionnaire, même s'il a soutenu la révolution. Il y a contribué même.
Oui, mais est-ce qu'il n'aurait pas dû dire qu'il était révolutionnaire malgré ses réserves ?
Non.
Peut-être que ça aurait mieux imprimé.
Non, parce qu'il rejette la violence. Il a vu des scènes sanglantes. Il le dit dans plusieurs textes, la révolution était sanglante, elle n'avait pas besoin de ça. Justement, c'est pour ça qu'elle n'a pas abouti. La vraie issue de la Révolution française, c'est le changement de système social. C'est pas simplement de changer des hommes, c'est-à-dire, comme il dit, de mettre des métaphysiciens et des juristes et de faire la Déclaration des droits de l'homme. C'était de passer du système théologico-militaire, comme il l'appelle, l'ancien régime, au nouveau système social, scientifique et industriel. Le mot réformateur est très intéressant parce qu'il a aussi une signification religieuse. Il renvoie à la grande réformation, bien sûr, à Luther, à Calvin, Picard comme lui d'ailleurs, Calvin. Et donc, qu'est-ce que la subtilité de Saint-Simon est là ? C'est qu'il faut faire un tout petit déplacement dans le système social, ce que Lénine appellera le maillon faible, trouver le maillon faible, pour faire un maxi changement social. Et qu'est-ce qu'il invente ?
C'est quoi ce micro-déplacement, alors ?
Justement, toute son œuvre porte là-dessus, sur ce petit déplacement. Le moment le plus fort, c'est quand il dit « Il faut donner le pouvoir de voter la loi de finances aux industriels. » Parce qu'ils savent ce que c'est l'économie, ils savent ce que c'est que la bonne gestion, l'administration. S'ils prenaient la majorité à la Chambre, eh bien, à ce moment-là, on transformerait radicalement le budget de l'État qui, au lieu d'aller servir les oisifs, les fainéants, c'est-à-dire le gouvernant, les prêtres, les nobles, les fonctionnaires, etc., les frelons, qui captent le budget, qui captent le miel à leur profit. Et si on mettait les abeilles, justement, pour décider de la loi de finances, eh bien, à ce moment-là, l'argent public retournerait à la production qui est la finalité.
Voilà, et ce qu'il faut entendre par industriel, Pierre Musso, qu'on soit bien d'accord, c'est ceux qui produisent. C'est pas, on parle pas peut-être des patrons, c'est pas ni une technocratie, ni le gouvernement des plus riches qui l'entend par là.
Il a évolué, Saint-Simon, sur ce terme industriel. Au début, il vise plutôt les élites, les chefs d'entreprise. Il est très proche des grands industriels et banquiers de l'époque comme Ternaux ou Lafitte. Mais en évoluant, c'est pour ça qu'il passe d'un libéralisme industrialiste à un industrialisme social. Il élargit notamment dans le catéchisme des industriels. Il répond à votre question, qu'est-ce qu'un industriel ? C'est tous ceux qui produisent, qui travaillent, mais aussi les banquiers.
Donc c'est les abeilles.
C'est les abeilles, c'est 24/25e de la population. Donc c'est juste, on enlève les oisifs, on enlève les frelons et tout est bon. Voilà.
Vous avez dit que c'était un petit changement, le maillon faible. Je pense que l'expression peut particulièrement imprimer en 2025. Je vous propose d'écouter un extrait du Nouveau Christianisme de Saint-Simon. C'est son dernier texte, il date de 1825, c'est l'année de sa mort, où on entend quand même qu'il y a un enjeu de changement de grande ampleur.
Dans le Nouveau Christianisme, toute la morale sera déduite directement de ce principe. Les hommes doivent se conduire en frères à l'égard les uns des autres. Et ce principe, qui appartient au christianisme primitif, éprouvera une transfiguration d'après laquelle il sera présenté comme devant être aujourd'hui le but de tous les travaux religieux. Ce principe régénéré sera présenté de la manière suivante. La religion doit diriger la société vers le grand but de l'amélioration la plus rapide possible du sort de la classe la plus pauvre. Ce qui doit fonder le nouveau christianisme et se constituer chef de la nouvelle Église, ce sont les hommes les plus capables de contribuer par leurs travaux à l'accroissement du bien-être de la classe la plus pauvre. Les fonctions du clergé se réduiront à enseigner la nouvelle doctrine chrétienne, au perfectionnement de laquelle les chefs de l'Église travailleront sans relâche. Voilà en peu de mots le caractère que doit développer, dans les circonstances présentes, le véritable christianisme.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait, comme je l'ai dit, du Nouveau Christianisme de Saint-Simon, lu par Nicolas Berger. Marie Jeannin, dans ce texte, on entend, on va pouvoir discuter aussi de la dimension religieuse ou laïque, quel type de religion, c'est quoi que le temps presse. Néanmoins, on voit bien dans ce texte, dernier texte de Saint-Simon, qu'il cherche quand même à fonder une société qui ne soit pas fondée que sur des rapports sociaux, mais sur autre chose, de plus spirituel. Vous travaillez sur le droit. Est-ce que c'est pas le droit, en fait, aussi, qui peut fonder ces rapports-là, qui ne soient ni purement de travail, ni purement de spiritualité? Comment il a réfléchi à ça, Saint-Simon, pour fonder, en fait, une utopie, dans le sens aussi, en fait, d'une nouvelle communauté, d'un nouvel ordre?
Tout à fait, le droit lui sert beaucoup à ce moment-là, et vont beaucoup servir ses disciples également. Pierre Musso l'a dit tout à l'heure, la vision qu'ils ont de la DDHC et de son inefficacité, elle repose sur deux choses en réalité.
Déjà, la DDHC, c'est
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789. Leur insatisfaction vis-à-vis de ce texte repose sur deux choses. Déjà, pour eux, pour les Saint-Simoniens, cette déclaration repose sur du droit naturel, mm-hmm. et c'est insatisfaisant, puisque justement Saint-Simon, leur maître, leur a inculqué une idée qui ne va jamais les quitter en réalité, c'est la laïcisation de la société. Ça peut paraître curieux parce qu'on entend souvent parler de religion, de spiritualité dans leur pensée.
Là, le texte est
tout à fait,
c'est troublant.
Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est que Saint-Simon, lui, certes, veut créer une nouvelle religion, mais cette religion, c'est le déplacement du pouvoir temporel vers le pouvoir vraiment concret. Pour les hommes. Et donc, comment ramener ce pouvoir sur Terre ? Eh bien, grâce à la réforme politico-juridique et sociale également. Donc, ces propositions de réforme vont lui permettre de rendre cette pensée qui, pour lui, est passée de mode, on pourrait dire. La Révolution l'a marqué dans cette rupture entre la religion et la vie des hommes. Ça, il a été profondément marqué. Et l'enseignement qu'il va laisser à ses disciples, c'est de rationaliser cette nouvelle spiritualité. Et donc, comment la construire ? Par l'industrialisme, tout simplement. L'industrialisation doit être la nouvelle religion de production, qui s'accompagne d'une réforme sociale pour permettre à ce nouveau système de fonctionner en adéquation avec la fameuse parabole. On privilégie les abeilles et on laisse de côté les frelons, tout à fait.
Alors pourquoi Pierre Musso, Philippe Régnier, réinvestir le christianisme, ce terme de christianisme, pourquoi tout à coup la religion apparaît alors que finalement pour faire tenir une nouvelle société, avec une telle vision, abeille, frelon, industriel, avoir eu besoin de ce terme-là? Qui veut prendre la parole en premier ?
Pierre Musso. Juste une précision sur la Déclaration des droits de l'homme. Il a une formule magnifique, c'est de la haute métaphysique sur de la haute jurisprudence. Pour dire que pendant la Révolution, ce sont les légistes ou les juristes et les métaphysiciens qui ont pris le pouvoir. Justement, ce ne sont pas les industriels. Mais pour répondre à votre question, pourquoi il en vient à la religion ? Il y vient par la question de la morale. C'est-à-dire que comme il dit que la politique est la science de la production, il dit ça en 17-18, ce qui est proche en dialogue avec Jean-Baptiste C, eh bien, il va introduire la dimension morale, comme Sismondi et d'autres. L'économie ne suffit pas, il faut la philanthropie, il faut la morale, il faut la coopération. Il n'y a pas simplement la coopération dans la manufacture, par le travail, par le partage des capacités qui crée une solidarité. Il faut aussi une solidarité collective. Et là est polémique avec Benjamin Constant, qui prône un libéralisme, mais individualiste. Mm. Et c'est là que Saint-Simon fait une bifurcation vers cet industrialisme collectif. Et il en vient au christianisme pour une raison simple. Après la Révolution, qu'est-ce qui va remplacer le christianisme ? C'est la question de Chateaubriand. Joseph de Maistre, Louis de Bonald pose la même question. Maintenant, toute l'architecture symbolique fiduciaire, au sens de fidesse de la croyance, s'effondre. Qu'est-ce qui va la remplacer ? Et Saint-Simon répond, nouveau christianisme. Nouveau christianisme qui se débarrasse des églises, toutes les églises, parce qu'il veut se débarrasser de toutes les institutions issues de l'ancien système, et nouveau christianisme dont la finalité principale sera bien sûr de défendre et d'améliorer la situation de la classe la plus pauvre et la plus nombreuse, formule qu'il emprunte et à Condorcet, et on ne le sait pas, à Robespierre, dans un discours de 1790, ce qui montre bien qu'implicitement, il a toujours en tête les idéaux de 90-93. Et Saint-Simon va compléter ça par un universalisme paulinien du message de Saint-Paul. Dans tous ses derniers textes, il faut se comporter comme des frères. Donc, il tue le père, c'est-à-dire la verticalité divine du christianisme, au profit de l'horizontalité, de la fraternité et de la solidarité.
Philippe Régnier.
Le terme de religion est aussi un terme qui mérite d'être déconstruit et reconstruit pour aborder aussi bien Saint-Simon, le nouveau christianisme, que les Saint-Simoniens qui, comme on le sait, ont beaucoup choqué aussi, mais séduit les contemporains par la création d'une nouvelle religion avec nouvelle hiérarchie. Ils avaient des pères suprêmes, ils s'appelaient frères et sœurs entre eux. Et le terme de religion était constamment arboré jusqu'à Ménilmontant, dont on parlera peut-être tout à l'heure.
Dans quelques minutes.
Oui, voilà. Saint-Simon n'est pas de ceux qui imagineraient, par exemple, que la production plus importante de richesses amènerait un ruissellement de richesses vers le bas. La morale.
Saint-Simon n'était donc pas macroniste.
Non, non, non. Vous m'avez compris. La morale et la religion interviennent à ce niveau-là. Et ce que les Saint-Simoniens appellent l'amour. L'amour qui est la fonction religieuse pour eux essentielle, c'est-à-dire la fonction qui rétablit, maintient le lien, développe le lien social. Or, que fait le pontife suprême, celui qui aime et qui fait marcher ensemble la science et l'industrie ? Eh bien, il redistribue. Son amour redescend, y compris jusqu'à la classe ouvrière, et évidemment inclut les femmes qui sont les grandes exclues de la vie publique de l'époque. Dans cet effort pour organiser les choses, il y a plus généralement, une volonté d'abolir, comme ils le disent, l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors, c'est pas seulement la domination des uns sur les autres, c'est aussi l'accaparement du travail, des fruits du travail. Et donc, dans cette religion, dans ce socialisme, dans ce nouveau christianisme, il y a aussi cette dimension-là qui est très importante et qui fait que le mouvement ouvrier s'y est reconnu. Benoît Malon, donc le communard et la grande figure du mouvement ouvrier sous le Second Empire et d'après des débuts de la Troisième République, s'est complètement reconnu dans les intentions. Il n'y a pas seulement donc les textes, il y a aussi la réception des textes. Et la réception, elle est très forte du côté des femmes et du côté du mouvement ouvrier.
On va écouter tout de suite, on vous a parlé de Ménilmontant, donc ça c'est, on est du côté des Saint-Simoniens, on va tout de suite essayer de comprendre à quoi ressemble cette communauté où là peut se retrouver le terme d'utopie, mais peut-être pas dans un sens qui va valoriser ce projet de recherche constante de l'amélioration, de l'égalité et de la justice.
Premier prévenu, levez-vous. Quel est votre nom ?
Prosper Barthélémy Enfantin, âgé de 36 ans.
Quel est votre état ?
Chef de la foi nouvelle.
Ah. Où demeurez-vous ?
À Ménilmontant.
Prévenu Enfantin. Est-il vrai que vous ayez enseigné que l'intimité entre les sexes, considérée aujourd'hui comme n'ayant de légitimité que dans l'état de mariage, ne devait plus être exclusive entre les époux ? Que ceux que vous appelez le prêtre et la prêtresse pouvaient et devaient provoquer cette intimité entre lui et ses inférieurs, soit comme moyen de satisfaction pour lui-même, soit dans le but d'exercer une influence plus directe et plus vive sur leurs sentiments, leurs pensées, leurs actes. Enfin, est-il vrai que vous ayez qualifié le mariage de divin banquet, augmentant de magnificence en raison du nombre et du choix des convives ? Car, je vous cite toujours, s'ils connaissent les charmes de la pudeur, ils connaissent aussi les charmes de l'abandon et de la volupté.
Je suis venu poser les bases d'une loi morale nouvelle. Dans un monde où l'adultère, la prostitution et les vices honteux corrompent et abrutissent les hommes et les femmes, cette loi morale nouvelle, tous ont besoin de l'aimer, de la connaître et de la pratiquer. Même ceux qui prétendent juger ma moralité.
Il nous reste quelques minutes pour évoquer cette utopie de Ménilmontant. On entend dans cette mise en scène radiophonique de 1958 le procès de Prosper Enfantin, qui était donc à la tête de Ménilmontant. Est-ce que vous pouvez nous dire, Marie-Jeannin, qu'est-ce qui se passe à Ménilmontant? Voilà, qui a eu l'idée? Comment ça s'est fini? Voilà, c'est quoi?
Alors, sous l'égide de Prosper Enfantin, en 1832, les Saint-Simoniens, donc une groupe d'une trentaine de jeunes hommes, vont s'installer dans la maison de Prosper Enfantin, qui se situe dans le quartier de Ménilmontant à Paris. Et en fait, l'expérience Ménilmontant, c'est la mise en place de leur utopie rêvée.
Avec la loi morale, hein,
qu'on avec entend. La loi morale qui s'applique tout à fait à une toute petite échelle. Et on peut aussi lire cette expérience comme la mise en place de la fraternité qu'ils souhaitent installer dans la société. Ils pratiquent aussi une liberté totale, également une égalité entre eux. Il y a une entraide qui se met en place, on travaille ensemble, on dîne ensemble, on étudie ensemble. C'est une expérience utopique à très petite échelle. Et donc, tout ça va finalement très mal se passer, puisque ils vont être arrêtés, et Prosper Enfantin et d'autres Saint-Simoniens, dont Michel Chevalier, par exemple, vont être jugés devant la cour d'assises en 1832. Et on voit beaucoup de chefs d'accusation. Ils vont même être accusés d'avoir comploté contre l'État.
Et alors, selon vous, il s'agit là, et je pose la question à tous les trois pour clôturer cette émission, est-ce que le cas de Ménilmontant, est-ce que c'est le cas en fait d'une utopie dans ce qu'elle peut avoir de tourner vers l'avenir, de changements réels? Et là, on procéderait à une réhabilitation du terme d'utopie, c'est-à-dire non pas un lieu impossible, mais au contraire un lieu qu'on rend possible, ou au contraire, est-ce que justement les Saint-Simoniens ont perdu, trahi le message de Saint-Simon en, voilà, en le réduisant à une forme de communauté un petit peu anecdotique, Marie-Jeanne.
Eh ben, après 1832 et même après l'emprisonnement hein, d'un an pour certains, le travail ne va pas s'arrêter là pour eux. L'école a beau se rompre à ce moment-là, tout au long du siècle, je pense à Michel Chevalier par exemple, avec son travail au Collège de France et ensuite aux côtés de Napoléon III, ou alors Saint-Amand Bazar qui va s'attaquer à réformer l'héritage et le droit des successions. Il n'arrête pas le travail là et les réformes qui sont encore fidèles à leur vision du monde et à la morale proposée par Saint-Simon vont se mettre en place. Donc, moi j'ai envie de dire qu'en 1832, malgré la condamnation, bah, le travail ne fait que commencer.
Philippe Régnier.
Oui, deux choses pour être rapide. Ménilmontant, c'est une opération symbolique. C'est pas une tentative de fonder une nouvelle société telle que directement. Ça, les fourriéristes le feront à Condé-sur-Vègre. Mais Ménilmontant a le sens de poser un culte, des symboles, par exemple celui de la solidarité avec le gilet qu'on lasse dans le dos obligatoirement, ou l'abolition de la domesticité avec les travaux manuels qui sont effectués directement par les soi-disant apôtres. Et deuxième chose, le procès de Ménilmontant, c'est l'interruption brutale par la justice, mais en réalité par la force du droit, de l'expérience et l'interdiction à jamais de se revendiquer pour un mouvement de cette sorte de la religion et de la liberté religieuse qui avait été obtenue par la révolution de 1830. Donc Ménilmontant, c'est un théâtre ultra-romantique, un théâtre saint-simonien, c'est plus que la révolution d'Hernani. Et deuxièmement, c'est un acte d'une violence extrême de la part de l'État de cette époque.
Dernier mot, Pierre Musso.
Il faut voir que Ménilmontant s'inscrit dans une période où, on est après la Révolution, et se multiplient les utopies sociales. Il y a celle de Cabet, il y a celle de Fourier, bien sûr, le Phalanstère. Il y a évidemment Owen, New Harmony, New Lanark. Donc l'idée, c'est de créer en petit, à travers cette communauté, une sorte de préfiguration en grand de ce que pourrait devenir la société. Et donc, Ménilmontant n'est pas un phalanstère, c'est plutôt un temple, dans le même sens qu'évoquait Philippe Régnier. Mais ce que je voudrais insister, c'est qu'au sortir, en même temps que Ménilmontant, Michel Chevalier, qui est un des leaders, un ingénieur polytechnicien, qui est prof d'économie au Collège de France, Michel Chevalier va soutenir l'idée d'un nouveau système de la Méditerranée, c'est-à-dire il va décrire concrètement comment réaliser l'utopie, parce que l'utopie a une histoire. Et vers 1830 et 40, l'utopie qui était sociopolitique va devenir de plus en plus une utopie techno-industrielle. Pourquoi ? Parce que l'utopie techno-industrielle a plus de chances de se réaliser que l'utopie sociale et politique qui souvent se réalise sous forme comique ou dramatique.
Crisis aparece una respuesta, es una alternativa que ruge sin parar. Los bombos ya se escuchan por todas las barriadas, resuenan con la furia de aquellos que no están. Debajo de las calles resurgen como flores los cantos y los bailes que nos van a salvar. Bailando con la murga la vida se desgrana y no te queda otra que la crítica y saltar. Vamos a la utopía con amor y fantasía, vamos todos a cantar. Vamos hacia la utopía sin la bufa y alegría, vamos todos a bailar. Vamos hacia la utopía con Dios, Momo y simpatía, vamos todos a cantar. Vamos a la utopía construyendo la salida que nos haga sonir.
Merci à tous les trois, Marie Jeannin, Pierre Musso, Philippe Régnier. De vous, Philippe Régnier et Pierre Musso, on peut lire l'édition critique des œuvres complètes de Saint-Simon, c'est aux éditions PUF. De vous, Pierre Musso, je signale apparaître le 15 octobre une biographie de Saint-Simon. Saint-Simon, philosophe de la société industrielle, c'est aux éditions Fayard. Et maintenant, comme tous les jours, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Pourquoi y a-t-il de saintes et d'atroces colères ? La colère n'est pas une passion comme les autres. Les passions, ce sont ces mouvements qui nous emportent en nous, malgré nous et sans nous. Mais la colère est une passion encore plus emportée, encore plus importante que toutes les autres, encore plus violente. Elle comporte la violence en elle-même, puisqu'elle est le désir de se venger activement contre un autre d'une injustice qu'on a ressentie. Et d'autre part, la colère devrait être la plus justifiée des passions, puisque justement elle porte sur la justice. Elle devrait passer par le raisonnement, elle devrait toujours se dire « ai-je raison d'être en colère ?» La tension entre la colère et la raison est au cœur de la vie morale et politique des êtres humains. Elle comporte l'idée des justes ou des injustes colères. C'est pourquoi nous avons aussi dans la tradition morale, philosophique et même religieuse, l'idée qu'il y a des colères non seulement justes, mais en quelque sorte suprêmes, sublimes, qui aussi se voient désignées parfois du qualificatif de la sainte colère. Il est entré, il ou elle est entré dans une sainte colère. Le prophète, les prophètes dans toutes les traditions religieuses sont aussi ceux et celles qui s'en prennent à leur peuple soupçonné d'être sujet à l'injustice. Il y aurait donc une sainte colère, une colère peut-être plus profonde que la raison elle-même, en raison de son tourment et de son tournant vers la raison et vers la justice. Mais il y a aussi des colères atroces, des colères absolument destructrices. Tenir la colère est impossible de le faire sans mesurer ses extrêmes absolus. L'atroce colère, le rictus de colère destructeur que l'on voit aujourd'hui de nouveau, même sur le visage des hommes politiques qui devraient d'abord nous appeler à justifier les colères instinctives des individus et des collectivités. Qu'est-ce qui distinguera donc une sainte colère d'une atroce colère, un rictus de rage destructeur, d'un emportement qui peut au contraire tourner les êtres humains vers la justice ? L'un des critères qu'a très bien décrit par exemple Albert Camus dans plusieurs essais, ou Michael Walzer aussi sur la figure du prophète comme critique sociale, c'est que la sainte colère se tourne aussi, sinon d'abord, contre nous-mêmes. Oui, nous nous retournons aussi contre nos injustices. Les prophètes, dans toutes les traditions, critiquent leur peuple capable d'une injustice. Ils sont aussi en colère contre les injustices que nous commettons nous-mêmes, et pas seulement contre les autres, vis-à-vis de nous-mêmes, comme si nous étions parfaits. La colère injuste est toujours la colère qui s'en prend seulement à l'autre pour le détruire, et qui, évidemment, vis-à-vis de soi-même, n'est jamais en colère. Le narcissique, le pervers narcissique, est celui qui juge qu'il est parfait, et que les autres sont toujours dans leur tort. Dans les querelles, nous savons bien que pour sortir de la colère, il faut aussi admettre sa part d'injustice. Peut-être la sainte colère est-elle d'abord l'image d'une reconnaissance de nos imperfections, même d'une colère contre soi-même, à condition qu'elle ne devienne pas autodestructrice. Ainsi, un dieu peut-il être en colère contre son peuple, sujet qu'il ne respecte pas les lois, et chercher à le punir? C'est l'image étrange d'un dieu vengeur, d'un dieu colérique, qui peut aussi être un dieu guerrier, contre lequel il faut se dresser. Mais malgré tout, c'est d'abord le critère de la colère qui n'est pas seulement contre l'autre, mais aussi contre soi-même. En revanche, la colère destructrice, la colère rageuse que manipulent les narcisses individuels et tyranniques qui régissent aussi nos vies, cette colère, il est très facile de décrire. La colère atroce, c'est celle qui ne laisse qu'un champ de ruines, c'est la rage après laquelle l'herbe ne repousse jamais, contrairement à la sainte colère qui garde toujours en elle l'espoir de la paix, de la justice et de la reconnaissance mutuelle.
Merci Frédéric et un grand merci à toute l'équipe, Carla Michel, Anna Fulpin, Nassim El Kabli, Corinne Amar et Victoire Melet, à la réalisation Nicolas Berger, à la prise de son Anthony Thomasson. Pour retrouver toutes les émissions d'Avec Philosophie, rendez-vous sur le site de Radio France et sur l'application Radio France aussi.